Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le coup d'envoi de cette nouvelle saison du Collimateur après l'été, après une longue trêve estivale qui a quand même connu pas mal d'actualités et de rebondissements géopolitiques évidemment, notamment autour de l'Afghanistan. Alors je vais simplement préciser qu'on s'est évidemment un peu posé la question sur le moment, mais on a finalement décidé de ne pas reprendre l'émission dans l'urgence pour autant, déjà parce que c'est jamais mal de laisser un peu la poussière retomber sur ce genre de sujet, d'autant que l'actualité heure par heure de la chute de Kaboul était évidemment déjà largement couverte partout, et qu'il n'y avait donc pas grand-chose à y ajouter du point de vue du collimateur sur le moment. Mais on s'est donc un peu adapté, et ceux qui ont suivi les rediffusions de l'été ont pu voir qu'à partir d'août, la ligne éditoriale s'est quand même un peu infléchie, et je me suis retrouvé à diffuser tout ce qu'on avait dans les tiroirs sur l'Afghanistan pour éclairer un peu l'actualité, notamment les épisodes avec Adam Bachko, qui ont été très réécoutés, et qui, je veux dire, sont manifestés très prescients, disons, et très éclairants sur l'histoire et les dynamiques de fond de ce qui s'est passé cet été. Je précise à tout hasard que Adam publie un livre, sort un livre sur la justice talibane en Afghanistan ces jours-ci, qui sera, à n'en pas douter, très instructif sur par ailleurs ce qu'on a déjà abordé dans le podcast. C'est donc assez logiquement à cela qu'on va consacrer cet épisode de rentrée aujourd'hui, à cette percée impressionnante des talibans au cœur de l'été, sur un fonds de retrait américain qui était de toute façon prévu depuis l'accord passé entre l'administration Trump et les talibans en février 2020, et il va s'agir d'essayer de comprendre cette reprise du pays par les talibans, bien en avance sur la plupart des prévisions, en essayant de regarder vraiment de près ce qui se passe depuis 2 ans peut-être, 2 mois sûrement, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Je veux dire, encore juste un mot pour dire qu'évidemment on va pas refaire une nouvelle fois une longue histoire de l'Afghanistan, surtout ne pas essayer de pas tomber dans la méditation un peu contemplative et pas très éclairante sur le cimetière des empires que serait paraît-il le pays, et on ne va pas non plus essayer d'en tirer des conclusions définitives sur le déclin de l'Amérique ou de l'Occident, sur les impasses des interventions militaires à l'étranger ou que sais-je encore, déjà parce que je suis pas sûr qu'on ait vraiment le recul pour le faire de manière très efficace, mais surtout parce que je pense qu'on aura largement l'occasion d'en reparler, parce que cette reprise de l'Afghanistan par les talibans va forcément infuser toute la pensée stratégique pendant des années, voire des décennies. Il me semble donc qu'on aura largement l'occasion d'y revenir de plein de manières différentes. Donc, il va s'agir d'être autant que possible précis pour essayer de comprendre ce qui s'est passé depuis quelques mois, dans un pays que, quoi qu'il en dise, on comprend assez mal, généralement, en France, qui est un peu mystérieux et étranger, tant dans sa géographie que dans ses dynamiques politiques, et 10 ans de présence militaire française récente dans le pays n'y ont pas forcément changé grand-chose. Donc, pour y voir plus clair, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui 2 invités pour démarrer cette saison. Tout d'abord, Romain Mielcarec, journaliste indépendant, spécialisé dans les questions de défense, et on a notamment pu lire de vous récemment des reportages sur l'Afghanistan de ces derniers mois dans le monde diplomatique et dans Society. Donc bonjour Romain, bienvenue dans le Collimateur.
Bonjour, merci.
Et ensuite, un désormais habitué de l'émission, Wassim Nasr, bonjour.
Bonjour.
Journaliste à France 24, spécialiste notamment des mouvements djihadistes, et les auditeurs se souviendront que vous étiez venu discuter du djihadisme au Sahel puis au Levant dans le podcast. Je veux aussi rappeler votre ouvrage, c'est « Plomb, État islamique, le fait accompli », qui est directement en lien avec le sujet, puisqu'évidemment la présence de l'État islamique en Afghanistan et sa rivalité avec les talibans va être au centre de la réflexion quant à ce que va devenir l'Afghanistan dans les mois et les années qui viennent. Alors, j'aimerais avant tout commencer par vous, Romain Mielcarec, puisque j'ai dit que vous aviez publié récemment plusieurs reportages sur l'Afghanistan, donc vous y étiez au début de l'été, ce qui est quand même pas banal, en tout cas dans l'écosystème des journalistes français. Alors, on peut dire que vous avez eu le nez creux, ce qui est certain. En même temps, on pouvait se douter qu'il allait se passer des choses, puisque quoi qu'il arrive, le calendrier du retrait américain butait sur la date du 31 août. Mais simplement, j'aurais aimé vous demander ce que vous aviez en tête en y allant sur le moment. Déjà parce que ça peut nous aider à nous souvenir de l'appréciation de la situation à ce moment-là, qui était un peu recouverte par l'enchaînement des événements depuis. Mais donc, qu'est-ce que vous cherchiez à voir et à raconter en allant en Afghanistan au début de l'été ?
Alors, c'est bien aimable parce que vous commencez par montrer que je n'ai pas du tout eu le nez creux. Moi, quand je pars, il s'agit surtout de faire le bilan de ce qui vient de se passer, des 20 dernières années, et de raconter cette intervention étrangère, d'en faire le bilan vu par des Afghans. Des Afghans, qu'ils soient des autorités, des intellectuels, des personnalités, mais aussi de simples habitants du pays qui peuvent voir des résultats qui ne sont pas forcément ceux que l'on voit quand on lit des écrits académiques ou quand on regarde des reportages. Donc moi, à ce moment-là, il s'agit de faire le point. Pourquoi au milieu de l'été ? Parce que je travaille pour des médias qui sont plutôt sur le temps long, qui sont plutôt froids, donc on n'est pas du tout dans la recherche de l'actualité. Et il s'agit surtout à ce moment-là de faire le pas de côté sur tous ceux qui vont couvrir l'actualité, à savoir l'anniversaire, le 11 septembre qui va arriver, le départ des Américains, et de raconter à côté de cette actualité quelque chose qui va un peu plus chercher dans le fond, dans le long terme. Et du coup, je n'ai pas du tout eu le nez creux, puisque en cours de route, il a fallu un peu changer de pied et repasser sur une actualité un peu plus chaude pour non pas raconter ce qui s'était passé au cours des dernières années, même si c'est présent dans mes articles, mais surtout pour essayer d'expliquer ce qui était en train de se passer à ce moment-là.
Mais alors d'abord, prenons les choses par là, qu'est-ce que vous avez vu ? Enfin, c'est-à-dire, on a vu, si on regarde la chronologie, l'enchaînement des dates, des faits, les provinces qui tombent toutes les unes après les autres, ok, on a une idée vague de ce qui a pu se passer, mais ça explique pas évidemment cette espèce de basculement. Donc vous, alors je sais pas, j'imagine que vous étiez essentiellement à Kaboul, surtout à partir du moment où ça a dû se précipiter, parce que c'était pas forcément très sûr de crapahuter partout dans le pays avec les talibans qui avancent. Mais qu'est-ce que vous avez vu, quoi, très concrètement ?
Quand j'arrive fin juillet, on voit que les talibans avancent vite, qu'ils sont efficaces dans leur conquête, mais on pense encore à ce moment-là que l'armée afghane va tenir des bastions, notamment urbains, les grosses villes. Il y a des combats à ce moment-là assez intenses à Kandahar et à Herat, et tout le monde pense à ce moment-là que ça va tenir. On a arrêté de faire des pronostics parce qu'on se rend assez vite compte qu'on ne cesse de se planter et que les talibans vont toujours plus vite qu'on ne l'avait imaginé. Mais ce qui circule, ce sont les prévisions sorties dans la presse américaine, des services de renseignement américains, où on parle de 6 mois à 2 ans pour que le gouvernement chute à partir du moment où les Américains seront retirés. Moi, je vais surtout à Kaboul. Je me rends également au début à Kandahar. Quand je me rends à Kandahar, l'idée est d'aller rencontrer des civils, des déplacés, des victimes d'IED dans les mois, les années qui ont précédé, parce que ce que je veux à ce moment-là, c'est que ces Afghans-là me racontent leur bilan de l'intervention militaire. Et à ce moment-là, Kandahar est assiégé.
Quasiment Kandahar, on peut rappeler que c'est par ailleurs une province qui est traditionnellement un bastion fort des talibans. Même dans les années 90, les talibans sont partis de cette région-là. Donc évidemment, il était prévisible qu'ils commencent par ces régions-là, quoi.
Alors c'est une ville qui est symbolique parce que c'est à la fois la ville du Mollah Omar à l'origine, mais c'est aussi l'un des plus gros aéroports militaires de l'OTAN pendant l'ensemble de l'intervention. Donc c'est un point clé pour les deux camps, entre guillemets. Et au moment où j'y vais, donc toute la province est tombée, elle est tenue par les talibans, une partie de la population a fui vers Kandahar pour échapper au combat, et le volume de force présent dans Kandahar est conséquent. Quand on arrive à Kandahar, il y a beaucoup de militaires, beaucoup de soldats, il y a de l'armement, et moi les deux jours où je suis sur place, on entend l'artillerie, on entend les hélicoptères, ça tire. Donc il y a des affrontements, et à ce moment-là, les talibans sont à 2 km dans deux directions différentes, et a priori, les lignes sont à peu près figées.
Mais donc l'idée, c'est que la ville va pouvoir tenir, peut-être ravitaillée par la voie aérienne, mais qu'en tout cas, il est possible d'en faire un petit château fort qui résiste aux talibans un certain temps, c'est ça ?
Quasiment impossible de ravitailler par la route à ce moment-là, trop dangereux, trop compliqué. Donc effectivement, c'est surtout la voie aérienne qui est privilégiée. Et la stratégie du gouvernement afghan et de l'état-major, mais qui en fait exécute les ordres du président à ce moment-là, c'est de tenir ces grandes villes et d'essayer, grâce à la mobilité apportée par la voie aérienne, de transporter les forces spéciales d'une ville à l'autre en fonction des moments où c'est chaud, pour être capable de tenir face aux offensives des talibans. Et à ce moment-là, on se dit que ça peut tenir. Que si ces villes-là doivent tomber, donc au moment où j'y suis, on parle de Lashkarga dans le Helmand, qui risque vraiment de tomber, parce que là on est vraiment dans une des zones les plus violentes au cours des 20 ans de conflit. Et donc effectivement, les talibans sont en position de force. On parle de Kandahar et de Herat, qui sont les deuxième et troisième villes du pays. Et on se dit, ça va tenir. Si une de ces villes-là tombait, on ne craint pas un domino. On pense que, de toute façon, même si les talibans avançaient jusqu'à Kaboul, il y a tellement de militaires à Kaboul qu'ils ne pourraient pas rentrer sans que ce soit un affrontement sanglant et long.
Mais alors justement, on va revenir évidemment sur l'armée nationale afghane, parce qu'il va s'agir de comprendre ce qui s'est passé, mais si on replace, si on change de point de vue d'une seconde, on a beaucoup parlé de la stratégie des talibans, mais généralement on s'arrête à l'expression. Est-ce qu'on peut décrire un peu, alors il faut rappeler que c'est un pays qui est très rural, que donc il y a beaucoup de territoires à prendre, que des groupes mobiles peuvent être assez efficaces, mais voilà, quelle a été la stratégie de reconquête talibane, s'il y en avait une vraiment? Et est-ce que, parce que ça était aussi un lieu commun qu'on a entendu, que les talibans eux-mêmes s'attendaient pas à prendre tout ça aussi vite, ce qui est, bon, pour prendre un territoire, il faut quand même avoir des bases solides, donc on peut dire qu'en tout cas, il y avait probablement un plan derrière, mais alors quel était-il?
Alors, quand le gros de cette campagne commence au mois de mai, les talibans occupent déjà une partie conséquente de l'Afghanistan, qu'ils contrôlent, qu'ils administrent, surtout des territoires ruraux, effectivement, où toute une partie de la population est plutôt en accord avec le modèle de société qu'ils défendent et a plutôt tendance à penser que face à l'échec de l'administration afghane et des services publics, en fait, les talibans sont plus efficaces pour faire la police, pour rendre justice, etc. Donc il y a toute une partie de la population, principalement rurale, qui est favorable, ouverte à ce changement de pouvoir. Leur campagne va s'appuyer principalement sur deux choses. La première, c'est une très forte mobilité. Ils ont bougé très vite et ils sont très rapidement allés sur des territoires où on les attendait moins, notamment dans le nord du pays, où du coup, ils ont coupé une partie des capacités de manœuvre de l'armée afghane. Et puis, il y a eu un gros travail de stratégie d'influence, de propagande, où ils ont énormément poussé un narratif qui consistait à dire à leurs ennemis, si vous vous rendez, nous vous pardonnerons et nous vous réintégrerons dans nos rangs, nous sommes des frères, ça ne sert à rien pour vous de mourir pour le pouvoir central. Et ce message-là, couplé à une offensive et à des opérations de siège quand même solides, a plutôt bien fonctionné.
Ouais, Simnas, quand on entend ça, notamment la notion de mobilité, de groupe, ça fait assez immanquablement penser à ce dont on a déjà parlé par ailleurs ensemble à ce micro, c'est-à-dire ce qu'on peut voir aussi au Sahel, c'est-à-dire des petits groupes mobiles sur des véhicules qui emmènent pas forcément de l'infanterie blindée, des gros chars, mais plutôt cherchent à se disperser. Comment est-ce que vous lisez, disons, cette stratégie insurrectionnelle des talibans et finalement le fait que ça a eu une efficacité assez rare quand même?
Oui, absolument, c'était très efficace, mais j'ai envie de dire qu'on est en train de commenter l'épilogue de la campagne des talibans. L'épilogue, c'était la campagne militaire qui a démarré fin avril, début mai. Ils ont commencé à prendre du territoire, à assiéger des villes, etc., etc. Mais il faut savoir aussi que les talibans ont été très stratèges dans leur offensive, parce qu'ils ont couplé l'offensive militaire avec une offensive, on va dire, de négociation avec les figures locales, avec les représentants locaux. Et villes comme Herat, il y a eu finalement, à la dernière phase, très peu de combats. Il y a eu des négociations, ils ont négocié avec les responsables de la ville. À Kandahar, il y a eu combats très durs, comme ça a été rappelé, mais il y a eu aussi négociations. Et quand on voit qu'ils se sont attaqués aux gros morceaux, donc au nord, donc les régions qui leur sont hostiles militairement au début, on voit très bien que la logique était, le sud nous est plus ou moins acquis, on va commencer par le plus dur, on va voir comment ça va évoluer. Et ils ont utilisé moult moyens. efficacité militaire qui n'est plus à démontrer, mais aussi ils ont ramené dans leur rang par différents moyens des représentants locaux. Et comme Romain l'a très bien rappelé, ils administraient déjà une partie du territoire. Donc administrer, ça veut dire au niveau de la justice locale, au niveau de l'ordre local, et ça contente les gens, et ça fait d'eux la force présente sur le terrain. Et en opposition à quoi ? À un État corrompu. Donc ça aussi c'est important. Donc c'est essentiel, et on dit il y avait une force armée qui leur fait face, etc. Mais cette force armée, elle a besoin de motivation pour se battre. C'est-à-dire les militaires afghans, ils devaient se battre pourquoi ? Pour quelle raison ? Hein ? Face aux talibans qui eux se battent pour une conviction, on va dire profonde, et qui dans cette équation actuelle paraissent en tout cas aux yeux de l'afghan moyen, on va dire, ou l'afghan lambda, comme une solution, comme faisant partie de la solution pour cette fin de guerre. Parce que la fin de l'histoire, c'est la fin de la guerre. Ça aussi, c'était très attrayant, parce que les talibans ont dit aux Afghans, on va gagner, quand on va gagner, on va abandonner tout le monde, et c'est la fin de la guerre. C'est ça qui est aussi important, après plusieurs décennies de guerre.
Oui, c'est-à-dire d'une certaine manière, tout le monde est d'accord sur le fait que les talibans font gagner, même les Américains, donc dans une certaine manière, les talibans disent au moins qu'on gagne vite, ça ira mieux pour tout le monde, et effectivement, on peut voir que c'est attrayant. Mais alors justement, si on renverse une nouvelle fois le regard, est-ce qu'on pourrait essayer de caractériser, en quelque sorte, ce qui a plié dans l'armée nationale afghane au cœur de l'été ? Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait quand même de la masse, que vous avez rappelé, mais il y avait de la masse théorique dans cet appareil sécuritaire et de défense afghan. On parlait beaucoup de 300 000 hommes, c'était le chiffre que Joe Biden notamment avait avancé, enfin tout l'establishment américain. C'est un chiffre qui a des problèmes, parce que ça mélangeait plein de choses, et bon, il n'était pas forcément très fiable. Mais quand même, c'est de la masse, il y a du matériel aussi, notamment il y avait une supériorité totale dans la troisième dimension, les talibans n'ont pas d'aviation. Et on sait que l'aviation, quand on fait de la contre-insurrection, c'est le nerf de la guerre en quelque sorte. Donc, est-ce que tout ça, toute cette masse, c'était des chiffres qui faisaient un peu rideau de fumée sur les capacités réelles militaires de l'armée nationale afghane ? Ou est-ce qu'il y a aussi peut-être quelque chose que vous évoquiez à l'instant, d'une réalité plus psychologique, c'est-à-dire que, une fois que le mouvement taliban est lancé, peut-être que personne n'a forcément envie d'être le dernier tué pour un gouvernement qui est en train de prendre la fuite par ailleurs.
Il y a aussi quelque chose d'important. Un gouvernement, déjà qui est mal considéré par les Afghans eux-mêmes, mais un gouvernement qui était déjà abandonné par les Américains. Abandonné, je dis, diplomatiquement. C'est-à-dire, il faut rappeler quand même que les négos avec les talibans à Doha ont commencé en excluant le gouvernement afghan. Et ça, c'était le premier clou dans le cercueil du gouvernement afghan. Les Américains ont négocié avec les talibans sur une table en acceptant la condition des talibans, qui est celle d'exclure le gouvernement. Oui, donc aux yeux des gens qui se battent pour ce gouvernement, c'est déjà un coup très 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 dur.
On peut rappeler par ailleurs que ça a été un problème, parce que notamment il y avait la clause « il fallait libérer 5000 combattants talibans ». Et le président Ashraf Ghani a dit « c'est sympa que les Américains aient conclu ça, mais c'est quand même à nous de les libérer ». Et on voyait bien tout le problème de légitimité, voilà, donc, de qui était le bon interlocuteur pour faire les choses.
Donc ça c'était très important, ça c'est un premier coup, on va dire, diplomatique en termes de légitimité, mais aussi après, quand c'était vraiment acté, c'était l'arrêt du soutien aérien américain. Ça aussi c'est important, parce que certes, ils ont une aviation rudimentaire, les Afghans, mais il faut un soutien pour que cette aviation puisse fonctionner. Et une fois ça s'était perdu, c'était beaucoup plus dur de parler de troisième dimension face aux talibans. Et il y a aussi un autre aspect, peut-être que Romain a pu le toucher très clairement.
C'est vraiment au printemps que les États-Unis ont arrêté vraiment le soutien aérien actif à l'armée nationale afghane, qui avait du matériel, mais c'est pas la même chose évidemment d'avoir l'armée de l'air américaine derrière soi et de faire les choses soi-même.
Et il y a aussi l'aspect corruption qui revient à chaque fois qu'on est sur un théâtre d'opération, en tout cas face à des mouvements djihadistes ou insurrectionnels, peu importe, il y a l'aspect corruption. Ça veut dire les effectifs de l'armée qui sont gonflés pour des raisons de corruption, pour que les payes soient récoltées par leurs chefs, par des politiques, ou etc., etc. Donc ça aussi, ça a joué. Les effectifs que vous avez mentionnés, très probablement, sont un peu plus loin de la réalité que ce qui était vraiment le nombre réel de militaires aptes au combat au sol face aux talibans.
Romain Milcarac.
Moi, j'ai l'impression que, au début du printemps, les forces gouvernementales fondent leurs espoirs sur, en gros, trois piliers. Le premier, c'est les forces spéciales, environ 70-80 000 hommes, donc qui sont un peu moins nombreux que les talibans et qui sont globalement les seuls que l'on considère comme étant vraiment capables opérationnellement. qui vont combattre, qui vont mener des opérations difficiles, qui vont avoir des pertes. On parle de plusieurs milliers de tués chaque mois. Donc il y a des vrais combats. Ces gens-là, ils vont s'user. Le deuxième pilier, c'est effectivement la force aérienne, avec des hélicoptères qui apportent de l'appui-feu, qui permettent du transport tactique, qui augmentent la mobilité des troupes, et un petit peu de frappe par les quelques avions d'attaque qu'ils ont. Mais ça ne remplace pas la puissance de frappe des Américains qui avaient énormément augmenté leur frappe ces dernières années, et qui là, ont, de la même manière qu'ils ont retiré l'appui diplomatique, ont retiré l'appui militaire, donc les forces spéciales au sol perdent l'essentiel de leur appui-feu, et les capacités aériennes, qui sont somme toute assez modestes, vont également s'user très vite. Et le troisième pilier sur lequel des espoirs reposent, ce sont en gros les derniers grands chefs de guerre qui datent des guerres précédentes, de la guerre contre les soviétiques et de la guerre civile, des gens comme Ismail Khan à Herat, des gens comme Massoud, des gens comme Dostum à Mazar-e-Sharif, qui ont une espèce d'aura. On accorde un crédit à ces gens-là en étant persuadé qu'ils vont être capables de soulever la population face aux talibans, alors que ces gens-là, en réalité, n'ont pas d'équipement, n'ont pas de cohésion, n'ont pas d'organisation et surtout ne sont pas coordonnés avec le reste des forces.
Et gangrénés par la corruption.
Et également, eux-mêmes, extrêmement touchés par la corruption.
Donc, la corruption, simplement, je veux préciser, parce que c'est un mot un peu vague, la corruption, c'est simplement des généraux, enfin des officiers, qui touchent des payes qui sont censés les redistribuer et qui les redistribuent pas, qui touchent des munitions et qui les revendent au marché noir. Enfin, concrètement, la corruption, c'est un concept
parfois un peu... Et du clientélisme aussi, hein, et du clientélisme, et des trempettes dans des trafics, etc.
Voilà, mais donc concrètement, ça fait que ben, parfois, le soldat qui voit les talibans arriver, il n'est pas payé et il n'a pas de balles. Donc évidemment, on comprend que ça peut émousser un peu l'esprit combatif. Quoi.
Alors, il y a ça au niveau de l'armée, effectivement, et puis il y a une problématique au niveau de ces chefs de guerre. En fait, le gouvernement refuse d'armer et de mobiliser ces chefs de guerre le plus longtemps possible, et quand ils vont changer d'avis, c'est trop tard. Et pourquoi ils font ça? C'est parce que, déjà, il y a une peur de concurrence politique et de concurrence pour le soutien de la population. Et puis surtout, si vous armez quelqu'un comme Massoud, vous ne savez pas s'il ira défendre autre chose que la vallée du Panjshir. Donc si les combats sont à Herat et que vous avez donné l'armement à Massoud, il n'ira pas, lui, à Herat. L'idée est quand même d'avoir une armée où on peut les bouger d'un front à l'autre. Donc ces gens-là sont finalement, leur donner de la ressource et risquer que cette ressource ne serve pas à défendre l'ensemble du pays, sachant que chacun a ses propres stratégies, ses propres réflexions. Et donc tout ça est assez catastrophique. Très vite, la question que se posent beaucoup de gens n'est plus de savoir est-ce que je préfère le gouvernement d'Ashraf Ghani ou est-ce que je préfère les talibans, mais de savoir est-ce que je reste ou est-ce que je pars. Moi, je raconte une anecdote dans un de mes articles qui m'a... C'est la première fois que je vois ça. Un officier des forces spéciales, un officier supérieur qui vient à une interview en ramenant son fils pour me demander si je peux le sortir du pays. Et la réflexion de tout le monde à ce moment-là est celle-là. C'est comment je fais pour sauver d'abord la peau de mes proches et ensuite éventuellement la mienne. Et à ce moment-là, les Américains sont en train de partir. Donc la question n'est pas de savoir est-ce que je vais sacrifier ma vie, c'est est-ce que je prends le risque de rater l'avion.
Mais alors ça pose aussi la question à laquelle vous avez fait référence rapidement, mais du discours des talibans, parce que voilà, les talibans sont avancés en faisant des promesses assez larges, en disant qu'ils avaient changé, que ça allait pas être comme en 94 où ils avaient tripé globalement tout le monde sur leur passage, en disant qu'il y aurait des amnisties, qu'ils voulaient faire un gouvernement différent. Donc ça pose la question de est-ce qu'il y avait des gens qui étaient vraiment captifs, qui avaient tout à perdre si les talibans arrivaient, et est-ce que ça faisait suffisamment de monde pour défendre des choses, ou disons est-ce que cette espèce de flou que les talibans ont su créer en créant des narratifs, en créant des promesses, en les clamant haut et fort aussi, notamment par les réseaux sociaux. Est-ce que c'est aussi ça qui a, en quelque sorte, mis un levier, en tout cas mis une entaille dans ce qui aurait pu être un esprit de résistance, c'est l'idée que si les talibans arrivent, on est tous morts, on peut imaginer que ça aurait pu stimuler une volonté plus dure de résistance. Je sais pas qui.
Oui, évidemment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les talibans, nous, on est en train de commenter l'effort militaire. Mais il y a eu un effort vraiment vis-à-vis de la population équivalent au niveau des négociations, des notables, de rassurer, on va dire, les gens, et un effort diplomatique aussi avec les pays tout autour. Hein. Ça, peut-être qu'on pourra en parler un peu plus tard. Ce n'est pas qu'une offensive militaire. Les talibans ont fait plusieurs offensives de communication vis-à-vis de la population et un effort militaire. Et est-ce que les talibans ont changé? Pas du tout. Pas du tout, c'est les mêmes. C'est le Mora Bardar, c'est le visage politique. On va dire, les talibans aujourd'hui, c'est cofondateur du mouvement avec le Mollah Omar. Le numéro 2, c'est Sirajuddin Haqqani, c'est un des fils Haqqani, du réseau Haqqani qui a abrité Al-Qaïda dans le Waziristan. Voilà. Le chef militaire, c'est le fils même du Mollah Omar. Et le fils cadet de Haqqani, Anas Haqqani, il a vraiment son mot à dire dans la formation du gouvernement qui vient. Et Akhundzadeh, qui va être le chef suprême de son titre commandant des croyants. C'est ça, les talibans. Mais après, il ne faut pas oublier que les démarches que les talibans font aujourd'hui, ils les ont déjà fait en 1994-2001. Ça veut dire qu'ils avaient tendu la main à la communauté internationale. Ils ont été reconnus par les Émirats arabes unis, par le Pakistan. Ils avaient reçu des délégations de l'ONU, des délégations européennes, des ONG. Sauf que l'équation était telle qu'ils se sont fait doubler par Al-Qaïda. Ça veut dire que Ben Laden était déjà là. Et quand il est venu avec ses hommes. Les combattants étrangers étaient encore là. Et ils ont pensé, on va dire, le 11 septembre depuis l'Afghanistan. Mais le 11 septembre a été préparé surtout à Hambourg, aux États-Unis. Et donc après, les relations entre Ben Laden et le Mollah Omar ont fait que le Mollah Omar n'a pas voulu le donner aux Américains, même s'il y a eu avis divergent au sein même des talibans à l'époque. Et ça, cette époque-là, elle est révolue, on va dire. Les talibans sont les mêmes, mais ils ont appris de leurs leçons. Ils n'ont pas envie de sacrifier 20 ans de djihad sur l'autel d'un éventuel attentat préparé, on va dire, par Al-Qaïda, alors que même Al-Qaïda, aujourd'hui, n'a pas les moyens de faire en septembre, en tout cas depuis l'Afghanistan ou depuis ailleurs. Donc pour répondre à votre question, ils n'ont pas du tout changé. Ils n'ont pas du tout changé. Ils avancent leur pion de la même manière. Ils font de la politique. Les talibans font de la politique. Ils ont eu un effort de communication, on va dire, plus prononcé vis-à-vis des chancelleries occidentales, peut-être, et sur les réseaux sociaux. Mais in fine, quand on regarde ce qu'ils font, là, ils vont former un gouvernement, il n'y aura pas de femmes. Au niveau de l'éducation, ils disent, on va éduquer la femme, mais dans les limites de la charia, est-ce qu'il est acceptable par les coutumes afghanes? Donc on est toujours au même niveau. Et je ne vois pas, en tout cas, en quel honneur, hein, après 30 ans d'existence et de djihad, ils vont renoncer quoi que ce soit de leurs principes, parce que c'est très dangereux pour eux aussi. Nous, on parle, et les Occidentaux regardent ce qu'ils vont faire, mais les djihadistes aussi, et peut-être qu'on dira un mot. Ça veut dire que cet aspect-là est aussi très très important, parce qu'ils sont scrutés des deux côtés. Et l'expérience et l'épreuve de la gouvernance est la grande épreuve aujourd'hui pour eux. Ce n'est pas l'épreuve militaire qu'ils ont réussi. La grande épreuve est l'épreuve de la gouvernance.
Mais alors simplement, est-ce qu'on peut justement dire un mot de cette narration qu'ils ont réussi à développer sur le moment, notamment dans la mesure, enfin je veux dire, c'était frappant, on s'est un peu échappé, mais les parallèles avec la chute de Saïgon à la fin de la guerre du Vietnam étaient partout. Enfin bon, il y a une narration qui s'est imposée partout, alors peut-être un peu de joie mauvaise de voir les Américains partir, s'enfuir aussi, a permis que ce soit relayé, mais en tout cas, comment dire, comment est-ce que vous analysez, c'est la manière dont ce discours, très du point de vue des talibans, a réussi à perméer, en tout cas, dans un écosystème médiatique plus large et traditionnellement pas très favorable aux talibans quand même.
Au sein de la population, ce qui est assez intéressant, c'est que dans les villes, au moins, beaucoup de gens en fait ne connaissent pas les talibans, ils ont été relativement peu confrontés et il y a une espèce de terreur généralisée sur ce qui risque d'arriver lorsque les talibans prennent le pouvoir. Ça, c'est omniprésent, et notamment chez tous les gens qui ont une vie un peu plus libérale, dans tous les métiers liés à la défense, à la sécurité, au pouvoir public, les gens qui ont fait ou pas un peu de politique. Voilà. Tous les endroits où on peut se poser la question de son avenir, on se dit, lorsque les talibans vont arriver, ils vont me tuer. Il y a une psychose qui s'installe très rapidement au moment où ils prennent le pouvoir, où on est absolument convaincu qu'ils sont en train de ficher tout le monde, de chercher tout le monde, de fouiller partout, etc. Pour l'instant, il me semble qu'il est un peu tôt pour savoir s'il y a une vraie volonté de régler des comptes. Je pense qu'il y aura des règlements de comptes, mais qui relèveront peut-être plutôt de démarches individuelles, de cadres intermédiaires ou de combattants talibans qui voudraient à un moment régler des velléités plus personnelles, mais qu'à l'échelle des talibans en général, ils vont surtout s'appliquer à mettre en place une justice qui réponde à leurs promesses. Mais le fait est que beaucoup d'Afghans, aujourd'hui, sont terrifiés parce qu'ils sont convaincus qu'il va leur arriver quelque chose de mal. Derrière cet aspect-là, ce qui est extrêmement difficile, c'est de faire le tri entre ce qui est rationnel, les gens qui sont vraiment en danger, qui sont vraiment menacés, et ceux qui sont dans une espèce de terreur un peu irrationnelle qui s'appuie sur des rumeurs, des légendes, des choses qui se racontent ici et là, et qui peuvent aussi nourrir une démarche d'aller chercher l'asile ailleurs. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens en ce moment qui sont dans une idée de se dire « je ne veux pas vivre sous le régime des talibans parce qu'il ne me permettra pas d'avoir une vie un minimum heureuse, donc il faut que je trouve un moyen de sortir. » Et pour avoir ce moyen de sortir, il faut démontrer que l'on est soi-même en danger menacé. Donc il y a aussi beaucoup d'acteurs qui sont dans cette démarche de dire « moi-même, je suis menacé ». Mais faire le tri est extrêmement difficile. Sur les narratifs, pendant toute la campagne militaire, il était assez intéressant de noter qu'il y avait deux récits de propagande qui se déroulaient l'un à côté de l'autre. On avait d'un côté les talibans qui ne disaient pas qu'ils tuaient des soldats. Eux, ils disaient « nous invitons les gens à nous rejoindre et les gens nous rejoignent et tous ensemble, dans le meilleur des mondes, nous vivrons heureux en harmonie ». Et de l'autre côté...
C'est exactement l'image qu'on se fait des talibans traditionnellement.
Ouais, mais dans leur communication, c'est exactement ce qui ressortait et c'était assez efficace. S'il n'y avait pas eu un certain nombre de cas de règlement de compte et d'assassinats et de massacres qui ont été révélés notamment par des grands médias internationaux, le fait est que leur discours circulait plutôt bien sur les réseaux sociaux.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Leurs médias, c'est essentiellement réseaux sociaux. C'est ça leur moyen de pénétrer le...
C'est WhatsApp et Facebook. Tous les Afghans sont connectés à WhatsApp et Facebook, même à la campagne. Alors, c'est pas toujours un téléphone individuel, mais on a un moyen d'accéder à ces réseaux sociaux-là sur lesquels une forme d'information circule. Mais par contre, beaucoup de difficultés pour la population de vérifier cette information-là. Et de l'autre côté, on a un récit de la part du pouvoir central à Kaboul qui consiste à égrener des pertes dans les rangs ennemis jour après jour qui sont complètement irréalistes. Chaque jour, si on écoutait le ministère de la Défense afghan, c'était des centaines, voire des milliers de morts dans les rangs talibans. Ça n'avait aucun sens. Donc plus personne n'y croyait.
C'est assez récurrent, ça.
Voilà. Mmh. Mais du coup, on avait ces deux récits-là, et on avait d'un côté un récit plutôt crédible qui tendait à convaincre, et qu'en plus, je pense, beaucoup de gens avaient envie de croire, parce qu'on avait envie de croire que les talibans n'allaient pas faire le pire, et de l'autre côté, un discours qui avait perdu toute crédibilité.
Après, il ne faut pas oublier qu'on est dans une situation de combat et de guerre. Ça veut dire, même la prise de Kaboul, le pouvoir politique taliban a dit « on ne rentre pas dans Kaboul ». Sauf qu'il y avait des commandants autour de Kaboul, et l'armée a quitté ses postes. Il était très très dur de dire à ses commandants, aux portes de Kaboul, vous rentrez pas, alors qu'il n'y a plus personne en face. Donc ils ont trouvé, on va dire, la parade qui se basait sur un tout petit peu de réel, qui est le désordre qui régnait, les vols, et qu'il fallait rentrer et mettre de l'ordre. Et donc c'est comme ça qu'ils sont rentrés à Kaboul. Et ça, c'est un détail aussi, on va dire, important. Et d'un autre côté, il faut imaginer qu'on parle des talibans parce qu'on a cette... le miroir politique des talibans, mais comme on l'a dit tout à l'heure, les talibans, c'est aussi une mosaïque aussi en eux-mêmes. Ça veut dire, il y a eu, par exemple, une unité qui était formée par la CIA, armée par la CIA, qui est Akhost, qui était amnestiée par les talibans, qui sont partis tranquillement, il n'y a pas eu de massacre, mais une fois qu'ils ont changé de province, donc tombé sur une autre unité taliban, là, ils se sont fait massacrer. Et ça, aujourd'hui, quand je disais tout à l'heure, la gouvernance, l'expérience de la gouvernance, ça en fait partie. Est-ce que les talibans vont réussir à tenir les rangs?
Alors justement, passons-y à cette épreuve de la gouvernance, c'est-à-dire à l'après, aux conséquences de cette prise totale, disons, de l'Afghanistan par les talibans. La première question à laquelle j'aimerais peut-être faire un sort, parce que c'est la plus immédiate, celle qu'on peut plus facilement régler, c'est celle du matériel militaire. Alors on a beaucoup vu fleurir sur les réseaux sociaux ces infographies un peu douteuses, selon lesquelles les talibans auraient récupéré pour plusieurs dizaines de milliards de dollars de matériel américain. Alors déjà, il semble que ça confonde tout le matériel livré depuis 20 ans aux Afghans, ce qui évidemment est très différent du matériel qui serait utilisable aujourd'hui par les talibans. Et par ailleurs, on peut mentionner qu'il y a un certain nombre d'équipements très sophistiqués pour lesquels il faut évidemment du savoir-faire. Et disons que faire voler par exemple un hélicoptère Black Hawk de manière opérationnelle, ça demande un peu plus que de la bonne volonté, ça demande aussi du savoir-faire et des pièces détachées, disons, même si ça fait des vidéos impressionnantes. Mais donc à votre avis, qu'est-ce que ça change cette prise d'un certain nombre de stocks, si tant est que ce soit avéré, et quel type de matériel risque d'être opérationnel et pourrait, disons, aider à renforcer le mouvement taliban. Romain Mielkarek ?
Dans les 85 milliards annoncés par les républicains, il y a non seulement l'équipement qui
donc
a été vendu.
Les républicains américains.
Américains, ouais. Mais il y a aussi beaucoup de services, de formation, d'instruction et même une partie des soldes des soldats afghans. Donc évidemment, ce montant est complètement absurde. Sur le matériel qui a été récupéré, il y a beaucoup de matériel terrestre qui fait qu'effectivement, les talibans se retrouvent avec une force terrestre solide. Ils ont beaucoup de véhicules blindés. Beaucoup d'armement léger. Il y a la problématique de la puissance aérienne qui a soulevé beaucoup de questions. Et là, effectivement, comme vous le dites, faire voler un Black Hawk, c'est une chose. Utiliser un Black Hawk de manière opérationnelle, avec du relief, avec des hommes embarqués qu'il faut déposer éventuellement sous le feu, etc., c'en est une autre. Et en général, pour arriver à quelque chose de satisfaisant, il faut un petit peu de formation. Et là, les formateurs ne sont pas là. L'autre point, c'est qu'il y a quand même une partie des pilotes afghans qui sont partis avec leurs machines. Donc il y a entre 40 et 60 aéronefs qui ont été sortis vers l'Ouzbékistan.
C'est la beauté d'être aviateur, c'est qu'on a un moyen de transport.
Il y a une porte de sortie, effectivement. Et donc ils ont sauvé quand même une partie du parc aérien. Et ils ont récupéré a priori les matériels les plus sensibles. Et la question qu'il faut se poser derrière tout ça, c'est récupérer de l'armement, d'accord, mais pourquoi faire ? Alors, le prochain ennemi et le principal ennemi des talibans aujourd'hui, c'est l'État islamique. Et effectivement, ils vont se retrouver aujourd'hui avec un avantage matériel conséquent sur ce principal ennemi. Derrière, il y a deux inquiétudes. La première, c'est que l'État islamique lui-même et éventuellement d'autres groupes terroristes plus proches des talibans puissent récupérer de l'armement. Mais il y avait déjà tellement de choses en circulation que ça va se jouer à notamment des optiques de nuit, des choses comme ça qui vont augmenter une petite plus-value à ces groupes-là. Et surtout, et à mon avis, c'est là où il va falloir faire attention dans les années qui viennent, ça va être la dissémination de cet arsenal avec des trafics et la possibilité de revendre parce que les talibans risquent d'avoir des besoins financiers dans les années qui viennent. Et ils ont beaucoup de matériel, et je ne suis pas sûr qu'ils aient besoin ni l'utilité de tout ce matériel-là. Donc en revendre une partie, ça représente une manne financière. Et la question, c'est qui pourra l'acheter ?
Au Simnas, évidemment, comparaison n'est pas raison, mais quand on... Enfin, il y avait une sorte d'effet d'écho avec, on se souvient en 2014, la chute de Mossoul, c'est-à-dire l'idée qu'il y a plein d'équipements militaires qui tombent aux mains de gens qui n'étaient pas censés les avoir et que du coup, ça précipite la catastrophe. C'est-à-dire, bon, évidemment, c'est pas la même chose puisque l'État islamique à l'époque avait beaucoup plus besoin de ces équipements que les talibans aujourd'hui. Mais en tout cas, comment est-ce que vous voyez ce renforcement, disons, en termes de matériel des talibans, est-ce que ça peut créer ?
Bah, ça dépend, on se positionne où. Ça veut dire, on a senti l'effet là, d'avoir une capacité en MV et en M117 blindés.
Donc des véhicules de transport.
Véhicules de transport avec des petits canons, voilà. Pour les M117, on a vu l'efficacité dans la bataille du Panjshir, qui a duré une semaine. Donc, qui s'annonçait, on va dire, difficile, mais finalement pas.
Donc attendez, on va rappeler, c'est ouais. Évidemment le fils Massoud. On en a beaucoup fait en France parce que les Massoud, c'est un peu une passion française. Le père Massoud était au lycée français. Le fils Massoud était en vie en France encore il y a quelques mois. Donc on a eu beaucoup envie de croire qu'il y aurait une résistance possible dans le Panjshir. Oui, mais enfin, je veux dire, le Panjshir n'était pas vraiment tombé aux mains des talibans il y a 25 ans. Donc il y avait
mais à l'époque, il faut rappeler quand même, un petit interlude historique, à l'époque, les talibans ne tenaient pas du tout le pays déjà. Il y avait l'Alliance du Nord, tout le Nord leur échappait. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, là, ils ont commencé par le Nord. Donc ils savaient très bien ce qu'ils faisaient.
Donc mais, là, aujourd'hui, mais... il semblerait qu'aujourd'hui, alors vous avez sorti la vidéo aujourd'hui, ça me permet de rappeler à quel point votre compte Twitter est une source d'information assez incontournable pour tout ce qui se passe sur les fronts djihadistes. Donc le Panjshir serait tombé ce matin, peut-être donc à l'aide des équipements récupérés.
Peut-être, évidemment, que les véhicules blindés ont aidé à la prise rapide du Panjshir. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Comme par ailleurs, les prises de Mossoul, des Humvees par l'État islamique ont aidé à la conquête de Deir ez-Zor en Syrie de l'autre côté de la frontière. Mais ça s'arrête là. Ça veut dire, il ne faut pas exagérer les capacités qu'ils ont entre leurs mains et l'usage qu'ils peuvent faire de cet armement. Cet armement peut être efficace face à un groupe qui a des capacités, on va dire, similaires ou un petit peu moindres, mais pas face à une armée, on va dire, l'armée américaine. Ou ça, ça n'aura pas l'impact qu'on imagine ou qu'on a pu entendre dans les médias. Ça y est, ils ont une armée surpuissante, etc. Non. Ils ont de l'armement terrestre, ils ont des véhicules blindés qui vont leur être évidemment utiles. La preuve en est la bataille du Bachir. Et demain, comme l'a dit Romain, en face à l'État islamique, bah, ça n'ira pas plus loin.
Mais alors ça pose justement la question, venons-y enfin, de l'État islamique. Et bon, qui évidemment est en guerre avec Al-Qaïda partout dans le monde, on le sait, on en a déjà parlé souvent, Wassim, et évidemment qui c'est l'État islamique qui s'est manifesté sur le devant de la scène, puisque c'est eux qui ont revendiqué l'attentat à l'aéroport de Kaboul, qui a fait plus de 150 morts, dont 13 militaires américains le 26 août, qui était très prévisible, enfin, tout le monde savait que ça risquait d'arriver, et c'est arrivé. Ils ont un peu essayé aussi de balancer des roquettes sur les avions, mais ça a moins bien marché apparemment. Mais ça pose donc la question de ce dernier et demi, en tout cas à l'intérieur des frontières de l'Afghanistan pour les talibans, et de qui il est, c'est-à-dire quelle est l'implantation de l'État islamique en Afghanistan. Est-ce qu'ils ont un réseau, et une base comparable à ce qui a fait la force des talibans, c'est-à-dire une inscription par exemple dans des réseaux tribaux avec une assise sociétale, ou est-ce que c'est une implantation plus impalpable, peut-être plus urbaine, plus diffuse aussi, et donc plus
difficile à combattre ? Non, il y a les deux, ça veut dire, déjà on déborde un peu sur le Pakistan. Parce que l'État islamique, si vous voulez, pour faire court, s'il a réussi à s'implanter en Afghanistan, c'est grâce au dessus des talibans et au dessus du TTP. Le TTP, c'est les talibans pakistanais. Les talibans pakistanais qui ont été chassés du Waziristan par l'armée, grosse campagne de l'armée pakistanaise, qui n'ont pas voulu pactiser, qui n'ont pas voulu rester et qui ont décidé de vouer allégeance à l'État islamique. On est en 2015, avec des commandants déçus des talibans afghans. Tout ce beau monde s'est réuni en Nangarhar et à Kunar et dans d'autres endroits, on ne va pas rentrer dans les détails.
Mais
et
donc ils ont ça, réussi. C'est proche de la frontière, c'est les montagnes Pashtunes, c'est ces zones assez imprenables d'une manière traditionnelle, qui avant étaient le refuge des talibans après 2001.
Refuge de Tora Bora, on parle de la région où il y a Tora Bora. Tora Bora, dernier refuge de Ben Laden en Afghanistan. Donc c'est là-bas qu'ils ont réussi à avoir une assise territoriale éphémère. Ça a duré... on va dire quelques années, mais ça s'est vraiment terminé en 2018 grâce à l'effort parallèle et non conjoint, j'insiste, des talibans et de l'armée afghane soutenue par les Américains. Parce que les deux les combattaient. Hein, et c'est ce qui a fait qu'ils ont perdu leur emprise territoriale. Mais en même temps, pendant qu'ils avaient cette emprise territoriale, et ils profitaient, on va dire, des trafics transfrontaliers pour les ponctionner, etc., classique, quoi, classique des zones frontalières, ils avaient réussi aussi à tisser une toile dans les zones urbaines. Comme à Jalalabad particulièrement, et Kaboul. Donc là, c'est une autre forme de recrue. C'est des recrues urbains, idéologiquement, on va dire, convaincus.
Et parce qu'on peut rappeler aussi que la population urbaine de l'Afghanistan explose depuis 20 ans, donc ça fait aussi beaucoup, on en parlait avec Adam Machko, mais ça fait aussi beaucoup de pauvreté dans les banlieues, etc. C'est
absolument.
Évidemment un terreau fertile pour l'État islamique.
Absolument. Et c'est des zones, et c'est des régions, comme par exemple, on va parler de Kaboul, la capitale, où il y avait des réseaux préexistants. Donc quand j'ai dit les déçus des talibans, si on rentre dans les détails, aussi les déçus du réseau Haqqani. Donc le réseau Haqqani, qui est un réseau rodé, qui a des moyens logistiques importants en ville, et une partie de ce réseau a décidé de vouer allégeance à l'État islamique. Ce qui leur a permis de faire les attentats les plus sanglants à Kaboul, historiquement parlant, que ce soit contre les Sikhs, que ce soit contre les Hazaras, que ce soit en mai dernier dans une mosquée contre un imam qui prêchait contre l'État islamique, un imam qu'ils considéraient comme soufi ou déviant pour eux. Et ils avaient quand même, en juillet dernier, bombardé le palais présidentiel pendant la prière du Eid. Donc ils ont ce réseau-là. Aujourd'hui, ils n'ont pas d'emprise territoriale, mais ils ont ce réseau, on va dire, qui leur permet d'être nuisibles face aux talibans. Je vais terminer sur quelque chose. Je dis nuisible, ils ont fait l'attentat de l'aéroport, vous l'avez rappelé. Les morts pendant l'attentat, il y a eu un attentat, pas deux, il y a eu des morts, mais il y a eu des morts aussi par tir. Donc tir taliban, tir américain, dans la panique. Il y a eu des morts talibans aussi, et des morts américains. Donc ils ont une capacité de nuisance réelle, mais, à mon humble avis, ils n'ont pas la capacité de défier les talibans.
Romain Mielcarac ?
Et une démographie qui est beaucoup moins importante que celle des talibans et des différents groupes qui les soutenaient. Donc effectivement, pour moi, ils n'ont aucune capacité à contester le pouvoir des talibans, mais effectivement, ils peuvent mener des opérations, etc. Leur gros désavantage dans les mois et années qui vont venir, c'est que maintenant, l'essentiel de l'effort va être concentré sur eux. Il n'y a plus que eux à combattre. Et les talibans vont être plutôt bien équipés pour concentrer leurs efforts sur eux. L'inconvénient, enfin leur avantage finalement, c'est qu'il n'y a plus de soutien en termes de renseignement de la part des Occidentaux de l'autre côté.
Ah, mais ça, c'est à voir.
Bah, c'est justement
ça. C'est vrai que ça pourrait évoluer. Moi,
ça, c'est à voir, parce que pour la simple raison que c'est quand même assez cocasse hein, de voir que les Américains finalement ont clairement dit, le Pentagone, on a donné des infos aux talibans pour contrer les attaques de l'État islamique contre l'aéroport. Et ça, c'est un point très important. Même dans le discours de Biden, le dernier discours, il a dit « on continue l'effort ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire « on continue de bombarder, malgré la présence des talibans ». Donc ça, c'est à prendre en considération, c'est à suivre de très près. Et c'est très important aussi, pour la simple raison, que c'est exactement ça qui va peut-être créer des frictions au sein des talibans et renflouer les rangs de l'État islamique.
C'est ce que j'allais dire. C'est quelque chose qui a été dit et qui a été affiché par les Américains, qu'ils continueraient à faire du renseignement et que ce serait peut-être aussi un levier pour négocier avec les talibans, en échange leur offrir du renseignement. Mais alors, à quel point est-ce qu'on pense que ce renseignement est utile, évidemment, mais indispensable aux talibans pour combattre l'État islamique ? Est-ce que les talibans, on imagine qu'ils pourraient s'en charger tout seuls de l'État islamique ? Ou est-ce qu'il va y avoir besoin de cette aide éventuellement occidentale, ce qui, évidemment, fournirait aussi un support de propagande à l'État islamique. Si les talibans se mettent à coopérer avec les États-Unis, on mesure que ça va être un facteur de recrutement pour l'État islamique.
C'est déjà le cas. Hein. Pour l'État islamique, ils disent déjà, ils ont aidé les espions et les traîtres et les croisés à quitter Kaboul, alors que nous, on essayait de les tuer. Donc ça, c'est déjà, ça fait partie déjà de la propagande de l'État islamique. Mais d'un autre côté, il faut rappeler que faire de la guérilla, ce que les talibans savent très bien faire, ça n'a rien à voir avec faire de l'antiterro dans une ville de 4 millions. Hein. Voilà, donc ils ont évidemment besoin d'un apport. Et c'est ce qui était dealé en gros à Doha. Donc tout à l'heure, j'ai un peu abordé le sujet d'une manière assez, peut-être, avec un peu de sarcasme, en disant que les talibans ont dit aux Américains, on ne permettra pas à Al-Qaïda d'utiliser l'Afghanistan comme plateforme de départ de préparation d'attentats. En même temps, Al-Qaïda se battait côte à côte avec eux contre le gouvernement afghan. Mais ils ont vendu aux Américains quelque chose qui n'est pas du tout dans les capacités d'Al-Qaïda. Ça veut dire qu'Al-Qaïda, aujourd'hui, n'est pas en capacité de faire un 11 septembre. Donc, vous avez dit aux Américains, on ne va pas leur permettre de faire ça. Donc, c'est du gratuit, on va dire. Et d'un autre côté, ils se battent contre l'État islamique depuis 2015. Et donc, ils ont dit aux Américains, on continue à se battre contre l'État islamique. Donc, c'est là les intérêts, ils se sont retrouvés, on va dire. Et d'un autre côté, si on regarde la région, ils ont été voir les Iraniens, les rassurer vis-à-vis des Hazaras. Ils ont été voir les Russes dès 2017.
Donc les Hazaras, rappelons que c'est une minorité chiite au sein de l'Afghanistan qui a été beaucoup ciblée, alors à l'époque par les talibans, mais aujourd'hui surtout par l'État islamique, ouais. Et que donc, évidemment, les Iraniens cherchent à défendre cette minorité.
Et les talibans ont incorporé dans le rang des Hazaras. Il y a un Wali Hazara aujourd'hui, donc un gouverneur. Il y a un contingent Hazara dans le rang. Ça ne les rend pas plus sympathiques vis-à-vis des Hazaras, mais en tout cas, on sent un changement. Ils ont été voir les Russes dès 2017 pour les rassurer vis-à-vis des républiques, des anciennes républiques soviétiques, d'où beaucoup de recrues ont rejoint l'État islamique, que ce soit au Levant ou que ce soit en Afghanistan. Ils ont même été voir les Chinois deux fois pour les rassurer vis-à-vis du parti islamique du Turkestan. Donc c'est un contingent ouïghour dans les rangs des talibans qui a une présence en Afghanistan et à Idlib en Syrie. Et donc, ils ont rassuré tous ces gens-là vis-à-vis du traitement qu'ils vont avoir contre, en tout cas, avec ou contre, on va dire, les mouvements djihadistes. Donc, si Al-Qaïda est sous cloche et l'État islamique est combattu, soit. Et même aujourd'hui, il y a ces deux derniers jours, il y a eu deux attentats commis par le TTP, donc les talibans pakistanais, contre l'armée pakistanaise. Et on a vu le patron des renseignements pakistanais aller à Kaboul. Tout le monde a dit, ça y est, le patron des renseignements pakistanais va acter la victoire du Pakistan. Pas du tout. Il va négocier aussi avec les talibans comment vous allez tenir le TTP sous cloche. Et donc c'est ça l'épreuve de la gouvernance et les défis auxquels vont faire face les talibans demain.
Mais justement, ça pose la question qu'on a déjà un peu esquissée de l'unité, de la diversité des talibans. Ce que je veux dire, c'est que... Comment dire ? Évidemment, jusqu'à présent, il y avait l'élan de la reconquête et puis la cristallisation face à l'ennemi américain. Évidemment, c'est très fédérateur et il y a un objectif commun. Mais désormais, voilà, est-ce que c'est un groupe soudé, les talibans ? On parle beaucoup du réseau Haqqani, qui est donc un réseau, ça dit bien ce que ça veut dire, à l'intérieur de cette force qu'est les talibans. Est-ce que c'est un groupe qui peut être amené à éclater parce que il y a aussi une réalité tribale et que disons, ils n'ont pas forcément les mêmes intérêts au même moment. Qu'est-ce que vous en pensez, Romain Mielcarac ?
Il y a aussi un aspect très humain à la base de tout ça. Je vais commencer par le bas de la pyramide, mais Si vous demandez aux combattants talibans de base ce qu'ils motivent, en quoi ils croient, etc., c'est pas dit que ça aille extrêmement loin. De la même manière que si vous posiez la question à un soldat de base dans l'armée afghane, les priorités, c'est d'avoir une petite rémunération. Alors globalement, on est plutôt quand même convaincu par son camp, encore que s'il faut mettre sa vie sur la table, on peut y réfléchir. Donc il y a une problématique fondamentalement humaine de comment je construis ma vie dans l'avenir. Et on voit d'ailleurs pas mal d'individus de talibans qui aimeraient bien aujourd'hui pouvoir profiter de la situation pour trouver une porte de sortie et aller vivre ailleurs une autre vie. Qui sont pas plus convaincus que ça que le monde des talibans demain, pour eux, c'est mieux que de vivre comme migrants ailleurs. Donc il y a beaucoup de constructions comme ça d'individus. Et alors après, au niveau cadre intermédiaire, commandant de région, il y a des interprétations, des compréhensions, des arbitrages qui varient d'une région à l'autre. Ça, on en trouve beaucoup de témoignages chez les gens qui travaillaient dans des ONG, qui travaillaient dans la santé, qui travaillaient dans l'éducation. Il y avait des gens avec lesquels, des responsables talibans avec lesquels, par exemple, on pouvait négocier déjà dans les territoires qu'ils administraient, que les petites filles puissent aller dans une forme d'école, dans un certain cadre, en négociant ce qu'on va enseigner ou pas, etc. Il y avait des choses qui pouvaient se faire. Et puis il y en avait où c'était niet. Pas d'éducation des femmes. Donc ça variait d'un endroit à l'autre, et on en revient à la question de comment on fait pour gouverner un pays. Une des choses qu'il va falloir observer dans les mois qui viennent, c'est dans quelle mesure le pouvoir central des talibans sera capable d'imposer aux échelons intermédiaires des décisions qui forcément ne feront pas l'unanimité, parce que gouverner, c'est aussi faire des arbitrages, négocier, parfois céder du terrain sur certaines choses, et ça, c'est pas dit que tout le monde l'accepte facilement.
On peut dire peut-être un mot aussi d'une question qui est très économique et sociale, qui est la question de la drogue et de la culture du pavot, qui a été depuis au moins 2 décennies, mais même bien avant, mais qui depuis 2 décennies était vraiment le filet de sûreté de beaucoup des populations rurales de l'Afghanistan. Enfin, bon, rappelons que c'est 75% de la population qui vit à la campagne. Les talibans s'étaient un peu foirés sur la question quand même dans les années 90, parce qu'ils avaient essayé de tout interdire et ça avait beaucoup effrité leur soutien. Évidemment, les talibans, la drogue sur le papier, c'est pas trop leur truc, même si techniquement ils en ont profité depuis des années en taxant un peu les transactions. Voilà, est-ce qu'on peut dire un mot, disons, de l'enjeu que ça va être, de est-ce qu'ils ont appris de leurs erreurs, ou est-ce que bah, y a quand même une doctrine, une matrice assez ferme, qui risque, encore une fois, de mettre une scission quoi, entre la volonté doctrinaire des talibans et la gouvernance efficace d'un espace comme l'Afghanistan.
En tout cas, la volonté, là, ils l'ont exprimée dernièrement, c'était combattre le fléau de la drogue. Ils l'ont réexprimé. Après, il faut voir comment ça va s'articuler sur le terrain. Parce que même les Américains, c'était assez intéressant d'entendre une militaire américaine s'exprimer à ce sujet en disant... Quand on allait bombarder, faire du carpet bombing sur les champs de pavot, les agriculteurs rejoignaient les talibans. Et quand on leur donnait de l'engrais pour planter autre chose, ils vendaient l'engrais aux talibans. Les talibans en faisaient des bombes, des IED, et nos soldats mouraient avec ces bombes. Et donc c'est une question importante, et c'est une question, si je peux me permettre, qui ouvre sur autre chose. Parce qu'on ne sait pas s'ils vont vraiment interdire ou pas. Mais s'ils interdisent, il faut quelque chose pour remplacer. Et d'où on comprend aujourd'hui, pourquoi tout le monde essaye de leur envoyer de l'aide. Le Qatar, les Émirats, avec injonction américaine, les Européens, pourquoi les délégations vont les voir, etc. Parce que justement, pour remplacer peut-être en partie cette économie, et pour que leur système tienne. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut quoi ? Que ça tienne, et que ça s'arrête, et que la guerre s'arrête. Mais si on enlève le seul moyen de subsistance à la population qui est le pavot, il faut bien le remplacer par autre chose. Et là, ça sera la communauté internationale. Donc on revient dans une équation qui est, on va dire, le propre même du réalisme, où on va voir que les États européens, les ennemis d'hier des talibans, vont vouloir les aider pour 2 raisons principales. Combattre l'État islamique et garder Al-Qaïda sous cloche, et combattre la culture du pavot.
Alors justement, est-ce qu'on peut dire quelque chose maintenant des autres acteurs internationaux ? Alors vous avez dit tout à l'heure, Wassim Nasr, qu'il y avait des ouvertures... depuis assez longtemps, parce que évidemment, bon, tout ça était prévisible, donc ils ont préparé le terrain dans une certaine mesure. Mais j'aimerais commencer par évidemment le grand acteur, qui est l'acteur voisin, qui est le Pakistan. On sait, puis vous l'avez rappelé, qu'ils ont un rôle historique dans la création des talibans. Les talibans, à la base, c'est ceux qui étaient allés étudier dans les madrassas de la frontière pakistanaise. Puis évidemment, le Pakistan a joué un rôle de refuge au moment de la présence américaine. Mais est-ce que, voilà, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que les Pakistanais ont l'impression d'avoir fait une bonne affaire? On sait en même temps qu'il y a des contentieux qui peuvent ressortir, par exemple autour de la frontière, qu'on appelle la ligne Durand, dont on peut rappeler qu'elle n'a jamais été reconnue, elle n'a jamais fait l'objet d'un consensus, et que même les talibans n'étaient pas d'accord avec la version pakistanaise dans les années 90, donc ça pourrait être un ferment d'opposition, voire d'affrontement ouvert. Donc comment dire, comment est-ce que vous pensez que le Pakistan va exploiter ou pas cette victoire malgré tout dans une certaine mesure, et à quel point est-ce que ça peut se retourner contre eux?
Bon, pour le Pakistan, je pense que les talibans sont plutôt un interlocuteur favorable avec lequel ils vont pouvoir travailler dans leur intérêt. Je pense qu'il ne faut pas surestimer l'influence absolue des Pakistanais sur les talibans. Je pense que les talibans sont conscients qu'il y a un certain nombre de choses qu'ils peuvent négocier avec Islamabad, que justement, maintenant qu'ils sont dans une position de force dans leur propre pays, ils peuvent peut-être un peu plus obtenir des services sur des domaines particuliers. Donc pour les Pakistanais, c'est une bonne nouvelle.
Oui, je suis d'accord, mais encore une fois, sans surestimer le pouvoir des Pakistanais sur les talibans. Les talibans sont libres, hein, même s'ils ont beaucoup d'intérêt au Pakistan, mais ils peuvent aussi donner du fil à retordre, hein, pour faire court aux Pakistanais. Et il y a plusieurs dossiers à évoquer avec les Pakistanais, encore une fois, surtout celui du TTP, donc des talibans pakistanais, parce qu'on l'a pas dit pour ne pas trop rentrer dans les détails, mais quand ils ont ouvert la prison de Bagram, ils ont quand même libéré le numéro 2 du TTP, des talibans pakistanais qui est rentré chez lui. Et donc ça, c'est des vraies questions. Hein. Les attentats commis par le TTP au Waziristan contre l'armée pakistanaise, c'est d'une manière assez, on va dire, journalière. Et ça fait partie des dossiers qui vont être négociés avec les talibans. La gestion de la frontière aussi. Même s'ils ont ouvert les postes frontières, c'est encore un peu, on va dire, le bordel, hein, pour dire les choses comme elles sont. Ils ont envoyé leur patron des renseignements pour négocier tous ces dossiers. Ça veut dire que les talibans ne prennent pas leurs ordres à Islamabad. Il ne faut pas le penser. Islamabad a des leviers vis-à-vis des talibans, mais les talibans qui sont en guérilla et en refuge au Pakistan, c'est une chose. Et les talibans au pouvoir à Kaboul, c'est encore autre chose.
Et d'une manière plus large, est-ce qu'on peut penser que ça donne un nouveau souffle, en quelque sorte, c'est notamment au mouvement djihadiste, islamiste au sens beaucoup plus large, notamment plus à l'est, autour du sous-continent indien, dont on sait que c'est une zone qui est toujours où l'équilibre est toujours extrêmement fragile. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on pense que cette victoire des talibans et aussi toutes les narrations dont on a commencé à parler autour de cette victoire des talibans peut insuffler ou pas au mouvement djihadiste, disons, à l'échelle du sous-continent, de la région plus large en tout cas.
Évidemment que ça donne un souffle à Al-Qaïda, hein, parce que le narratif d'Al-Qaïda est le suivant maintenant. Déjà, toutes les branches d'Al-Qaïda ont une allégeance aux talibans. Même la dernière née, qui est celle du Sahel, quand Iyad Agali a prononcé son allégeance à Acme, il l'a terminé par une allégeance aux talibans et à l'Amirat islamique. Quand il a fait son dernier audio, il a dit « notre victoire », en parlant du départ des troupes américaines. La Kaboul n'était pas encore prise. Donc évidemment, ça va donner un souffle de ce narratif-là face au narratif de l'État islamique qui, pour Al-Qaïda, a perdu son califat, son calife est mort, il n'a plus de territoire, donc c'était le mauvais chemin, pour faire court, et la victoire des talibans qui est celle de la patience, de l'endurance, etc. Mais pourquoi faire après? C'est ça aussi. Ça veut dire Al-Qaïda, dans son communiqué de félicitations, ils sont restés très succincts. Et ils ont dit, en gros, les accords contractés entre les Américains et les talibans, on s'en félicite et on va les respecter. Donc ça aussi, c'est à suivre de très près. Et pour le narratif à l'opposé de l'État islamique, ils disent Kaboul, c'est une passation de pouvoir. Les talibans, c'est pas ceux du Mollah Omar. Ils ont trahi. Regardez, ils collaborent avec les Américains. ils font rentrer les Hazaras dans leur rang, ils reconnaissent les institutions internationales, ça c'est très important, et donc ils sont déviants maintenant, et il faut les combattre. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut voir quel type de gouvernance vont exercer les talibans, et est-ce que ça va renflouer les rangs des plus radicaux, est-ce que ça va diviser leur rang, parce qu'ils sont sous la loupe, on va dire, des djihadistes. Donc en termes de littérature et de propagande, on a fait le résumé, mais en termes réels, militaires, militairement parlant, je ne pense pas que ça va changer grand-chose. Parce que déjà, Al-Qaïda, sur le continent indien, ils sont main dans la main avec les talibans. Mariage, relations tribales, ils ont combattu avec eux là, pendant cette dernière campagne. Mais je ne pense pas que la victoire des talibans à Kaboul va leur donner les moyens ou l'opportunité hein, de frapper ailleurs que là où ils sont.
D'un point de vue moral, je pense que ce qui n'est pas négligeable, c'est que les talibans ont montré que c'était possible de défaire les armées parmi les plus puissantes du monde, et ça pour beaucoup de groupes islamistes armés, c'est extrêmement intéressant. Ils ont réussi à repousser les Américains, leurs alliés locaux et tous les pays de l'OTAN qui étaient derrière. Donc c'était globalement le plus gros morceau possible. Ils ont gagné. Donc ça veut dire que c'est possible, et ça je pense que moralement, pour les troupes, les combattants de ces différents groupes-là, quelles que soient les régions dans le monde, c'est une référence qui va pouvoir être extrêmement mobilisatrice pour les gens.
Mais ils ont aussi négocié. Ouais, ça aussi, on l'oublie. C'est-à-dire, ils ont gagné, mais ils ont négocié. Ça veut dire, moi, c'était assez intéressant de voir Al-Qaïda centrale féliciter les talibans pour avoir négocié avec les Américains. Hein, pour être mis sur la table avec les Américains. Donc ça, c'est aussi une différence principale qu'on a déjà évoquée ici, avec Al-Qaïda qui accepte de négocier et l'État islamique qui n'accepte pas. Donc là, il y a une voie qui, entre guillemets, a réussi, qui est celle militaire couplée de négo, et une autre voie qui est jusqu'à boutiste, qui n'a pas réussi. Et ça, ça va aider le narratif d'Al-Qaïda, comme l'a dit Romain, partout dans le monde. Mais c'est le narratif dont on parle. C'est-à-dire que ça peut amener des recrutements, mais je ne pense pas que militairement parlant, il y aura des effets de la prise de Kaboul dans d'autres régions, comme le Sahel, ou comme la Somalie, ou le Yémen. Je ne pense pas.
C'est-à-dire que les talibans ne vont pas envoyer massivement des combattants, ni des fonds, ni des armes.
Ils n'ont aucun intérêt à faire ça.
Parce que, pourquoi, histoire de ne pas reproduire les erreurs de la fin de la décennie 90 qui ont mené jusqu'à 2001 et l'invasion de l'Afghanistan.
Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont abandonner Al-Qaïda. Ils vont continuer d'abriter Al-Qaïda. Mais ils vont l'empêcher de préparer des attentats ailleurs, à l'étranger, surtout en Occident, en même temps, comme on l'a dit, quelqu'un n'est pas dans cette capacité.
Oui, mais alors du coup, est-ce que c'est pas un peu dangereux au bout d'un certain temps d'abriter un mouvement djihadiste sur son sol qui a des ambitions... Enfin, je veux dire, c'est pas qu'Al-Qaïda va s'ennuyer au bout d'un moment, mais il y a quand même un truc. Al-Qaïda est quand même un mouvement qui a une visée globale. Qu'est-ce que ça peut faire, la cohabitation entre des talibans qui veulent gouverner un pays, apparemment en tout cas, et un mouvement qui quand même a des ambitions à l'échelle planétaire?
Ça a toujours été leur priorité de gouverner l'Afghanistan aux talibans, et je pense que dans l'immédiat, au moins dans les années qui viennent, ils ont franchement autre chose à faire que de commencer à se poser la question du djihad global. Ce qui est certain, c'est que les groupes qui sont proches d'eux, et notamment Al-Qaïda, vont gagner en liberté de manœuvre sur ce territoire-là. Donc ça va être des rapports de force après pour dire qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et plus on avancera dans le temps, plus il est probable que des groupes comme Al-Qaïda puissent faire valoir leur avantage pour peser un peu plus et peut-être s'autorisent à mener des actions un peu plus audacieuses au-delà des frontières de l'Afghanistan.
Mais après aussi, ça veut dire... On ne peut pas faire un parallèle avec l'époque révolue 96-2001 et aujourd'hui. C'est-à-dire Al-Qaïda à l'époque, comme on l'a dit, les rapports entre Ben Laden et le Mollah Omar ne sont pas les rapports entre Zawahiri et Akhundzadeh aujourd'hui. Et Al-Qaïda de l'époque avait un vrai apport pour les talibans, matériel et financier. Aujourd'hui, l'équation n'est pas du tout la même. Là, les rapports sont plutôt inversés. Donc c'est évidemment à suivre, hein. On n'a pas une boule de cristal. Mais d'après ce qu'on peut lire, d'après ce qu'on peut analyser de ce qui est sorti de la bouche d'Al-Qaïda dernièrement, on peut imaginer qu'ils vont essayer, en tout cas, de laisser vivre cet émirat islamique et de laisser les talibans décider du bien fondé de ce qui va se passer.
Là où je pense qu'il y a quand même une marge de manœuvre pour Al-Qaïda, si à un moment ils avaient des velléités de mener des opérations, c'est que malgré tout, les talibans ont besoin d'une crédibilité internationale au sein des autres groupes. Et donc, ils ont aussi besoin, à la fois, ils ont un rapport de force favorable en ce moment, et à la fois, ils ont besoin aussi de laisser les autres groupes vivre et poursuivre leurs propres objectifs politiques, parce que sinon, ils prennent le risque de se retrouver discrédités de toutes parts, que d'autres mouvements se mettent à rallier le narratif de l'État islamique
oui,
et de
fait.
Dire, en fait... effectivement, vous n'êtes que des suppôts du camp occidental et vous avez trahi la cause.
Et pas que. Là, les rapports avec l'Iran, les rapports avec les Chinois, ça, c'est très important. Question ouïghour.
C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on peut dire un mot des autres grandes puissances qui vont s'investir ou pas en Afghanistan ? D'ailleurs, c'est un truc qu'on dit beaucoup. Les Américains partent, les Russes, les Chinois, les Iraniens, les Turcs vont arriver. Bon, parce que ça va aussi avec ce narratif un peu catastrophiste sur le retrait, la débandade américaine, etc., qui est probablement un peu exagéré. Mais en tout cas, ça cadre assez bien l'idée que les États-Unis se retirent, les autres vont capter ce territoire, ces ressources, même si l'Afghanistan, c'est pas... Enfin bon, il y a des ressources minières, mais c'est pas non plus le pays le plus riche du monde, on le sait. Donc est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce que vous en pensez ? D'une part, est-ce que les talibans seraient très pressés de collaborer avec la Chine et la Russie, qui ont une gestion pour le moins discutable de leur minorité musulmane, disons ?
Absolument. Ils vont absolument traiter avec la Russie et la Chine. Ils ont donné tous les signes positifs. Ils ont été reçus dès 2017 par les Russes, deux fois par les Chinois, l'avant-dernière fois par le ministre des Affaires étrangères lui-même en tant que délégation officielle. Donc ils veulent absolument collaborer avec les Russes, avec les Chinois, avec les Iraniens.
Mais pourquoi ? Se trouver un protecteur parmi les grandes puissances du monde ?
C'est un jeu d'équilibriste, oui, évidemment, parce qu'ils savent très bien qu'ils ont besoin d'eux. Et que, c'est un peu du détail, mais les Russes, quand même, ils ont plus ou moins, on va dire, facilité, pour ne pas dire aider les talibans, dans le combat contre l'État islamique aussi. Hein. Ça veut dire qu'il y a eu des rapports qui sont des rapports d'intérêt. Pur et dur. Hein. Et si les Turcs et les Qataris rappliquent aujourd'hui à l'aéroport de Kaboul, c'est plutôt à la demande du camp occidental. C'est pas en opposition au camp occidental. Parce qu'encore une fois, il faut que l'aéroport de Kaboul fonctionne pour que les aides puissent être acheminées surtout, et d'un autre côté, pour que ce que les talibans sont engagés à faire, laisser partir ceux qui veulent partir. Donc tout ça se fait, encore une fois, comme un accord aujourd'hui entre différents joueurs et différents bailleurs de la communauté internationale qui ont tout intérêt, hein, pour dire les choses très clairement, que les talibans puissent tenir ce pays pour qu'il ne rentre pas encore une fois dans une phase très dure de guerre et de combat qui sera profitable évidemment à des groupes comme l'État islamique et qui va encore déstabiliser encore plus cette région. Donc c'est des calculs froids d'intérêt qui concordent aujourd'hui.
Romain Milcarac.
Et les Européens et les Américains continuent de discuter, alors plus ou moins directement, mais en tout cas, il y a au moins du côté des Européens très régulièrement des délégations qui se rendent sur place. Et la logique est à chaque fois exactement la même, c'est qu'est-ce que l'on négocie en échange de quoi ? Et ce que vont faire les talibans, ça va être de gouverner. Donc ils vont devoir faire des arbitrages entre ce que leur propose chacun de ces pays-là et ce que ça va leur coûter en échange. Dans le cas des Chinois, par exemple, les Chinois ont été parmi les pays les plus ambitieux en termes d'investissement et de développement économique de l'Afghanistan. Il y a eu une période au début des années 2010 où ils sont venus massivement sur le terrain et ils sont en partie repartis du fait de l'insécurité. Ils se faisaient tellement kidnapper d'ingénieurs, de représentants, de travailleurs qu'il y a un moment où ils ont dit « en fait, c'est pas efficace, donc on se retire ». Là, pour eux, c'est l'opportunité de revenir et de se positionner sur ce marché-là. Pour les talibans, ça veut dire potentiellement, on fait venir des capitaux, des ressources humaines, des gens qui sont capables de nous former, d'installer des usines, etc. etc. Et donc, c'est de la ressource. L'inconvénient, c'est que les Chinois, en échange, sont quand même des gens qui sont assez directifs dans leur manière de développer et pas toujours en se préoccupant des retombées pour les populations locales. Et puis surtout, ils vont demander à ce que les groupes qui les menacent directement soient bien, bien contrôlés. Donc c'est-à-dire que les talibans vont devoir choisir entre ces aspects-là. De l'autre côté, c'est pareil quand les Européens viennent.
Là-dessus va se jouer la légitimité des talibans. C'est-à-dire si on invite des Chinois, il faut les protéger et il faut s'assurer que tous les groupes soient un peu tenus sous le boisseau.
Dans tous les cas, ce sera de toute façon plus facile qu'au moment où il y avait beaucoup plus de belligérants et qu'il y avait beaucoup plus de combats. De là à être capable de les protéger totalement, je ne suis pas convaincu que les Chinois aient une logique du zéro risque. Donc ils seront probablement un peu plus ouverts que d'autres pays. Mais effectivement, il va falloir protéger les intérêts chinois qui pourraient s'installer en Afghanistan et qui deviendraient des intérêts partagés entre l'Afghanistan et la Chine. Mais c'est pareil du côté des Européens. Pourquoi les Européens viennent discuter ? Ben, il s'agit de négocier la réouverture d'un certain nombre d'aides internationales, de financement au développement, etc., en échange d'efforts sur des questions de sécurité, sur des questions de libertés individuelles. Et là, la question qui se pose de la même manière qu'avec les Chinois, c'est qu'est-ce que nous, gouvernement taliban, on est prêt à céder en échange de ce que l'on peut récupérer en face ?
Absolument.
Très bien. Eh ben, on verra ça évidemment dans les semaines et les mois qui viennent. Merci beaucoup à tous les deux pour ce tour d'horizon, disons, des rouages et des conséquences de la victoire des talibans en Afghanistan. Je rappelle que Romain Mielcarec, on peut lire vos reportages récents dans Society et le Monde Diplomatique, et Wassim Nas, qu'on peut vous voir et vous entendre très régulièrement sur les antennes de France 24, ainsi que vous suivre, et suivre notamment vos publications, même plus universitaires, à partir de votre activité, notamment sur Twitter. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci. Merci.
C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. C'est une nouvelle année, une nouvelle saison, mais certaines choses ne changent pas, notamment l'utilité de vos messages, notes et commentaires sur Apple Podcast ou sur SoundCloud, ainsi que sur les réseaux sociaux de l'IRSEM, qui nous aident à avoir des retours toujours très utiles, ainsi qu'à faire connaître le podcast, tout comme le fait que vous en parliez autour de vous. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.